Je vais passer à la ceinture de cuir. On a dit donc Jean-Baptiste a une ceinture de cuir dans Saint Matthieu, puis dans les autres évangélistes. Donc le premier sens de la ceinture, c'est le pagne. Dans la Bible, quand on met ceinture, ça peut désigner un pagne. Ça, c'est plutôt dans les écrits primitifs. C'est le pagne qu'on met sur les reins. Et les reins, c'est le siège des passions. Donc c'est le symbole de l'inséparable. Hein. Pour nous, ça va être la culotte, le slip, ce qu'on ne quitte pas, même quand on estime être nu ou quasiment, ben, on garde au moins ça, quoi. Voilà. On dit dans Isaïe, justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui désigne ce dont on ne doit jamais se séparer. On doit toujours rester juste et fidèle. Voilà, c'est le béaba. Pour nous, le pagne, ça va être l'Eucharistie tous les dimanches, ça va être la confession une fois par mois. Voilà. Si on n'a pas ce pagne minimum, on est nu, quoi. Élie en a une, Jérémie en a un pagne comme ça, et ça signifie être toujours prêt. On a l'exemple dans Saint Jean chapitre 13. Alors Jésus sort de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Il se met au service, en fait. Et on a aussi ça dans les Actes au chapitre 12, quand Saint-Pierre est enfermé et qu'il y a quatre escouades de quatre soldats qui le gardent dans une prison avec des murs très épais. Il y a l'ange qui vient le voir, qui ouvre tout et qui dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Et en fait, la ceinture, ça désigne vraiment quelque chose de particulier qu'on doit ceindre pour se mettre en marche. Et le deuxième sens, qui est le sens le plus courant, c'est la ceinture qui ressemble à notre ceinture, qui ressemble déjà plus. Alors, il faut savoir que les Hébreux ne portaient ordinairement de ceinture ni dans la maison ni au dehors, mais seulement lorsqu'ils travaillaient ou qu'ils allaient en voyage. C'est là qu'ils mettaient une ceinture. Alors, ils se retroussaient et ils saignaient leurs habits, du verbe cindre, leurs habits qui étaient longs, comme le portent aujourd'hui les Orientaux. Ils avaient un genre de robe comme ça, et ils mettaient la ceinture, et c'était du coup un habit cintré, pour pouvoir avoir de la latitude dans les mouvements, parce qu'effectivement, quand je travaille au champ, si j'ai ma robe qui bouge comme ça, je suis perturbé dans mes mouvements. Donc aujourd'hui encore, on met la ceinture au moment de partir, quand on fait son ouvrage, quand on fournit un effort et quand on part pour combattre. Et donc on a dit les reins, donc on met la ceinture sur les reins, et les reins, c'est le siège des passions. Les Hébreux y attribuent le siège de la douleur, de la joie, du plaisir. C'est-à-dire que c'est comme si, quand le Seigneur dit qu'il scrute les reins, c'est qu'il il scrute là où le plus profond de notre être, où se forme notre joie, ou notre peine, ou nos récriminations. Et effectivement, les reins, ça va désigner le plaisir gustatif, parce que les reins, ça va être ce qui filtre notre sang. Vous voyez, quand on a mangé, bah, c'est les reins qui travaillent. Et le plaisir sexuel, dans la Bible, on parle des hanches. Livrer ses hanches aux femmes, pour Salomon, c'est-à-dire la partie du corps qui va avoir le plaisir d'engendrer, en fait. Voilà, dans le plan du Seigneur, c'est ça. La région secrète de l'homme et de la femme, où se forment les desseins cachés, où peuvent s'allumer les passions les plus violentes, et où se concentrent la force et la génération. Voilà, les reins, c'est ça. C'est à la fois la force d'engendrement, et à la fois la chute liée aux passions mal placées, quoi. Donc, quand on se ceint les reins, on se montre parfaitement disponible. On a le Seigneur aussi qui dit à Jérémie, « Mais toi, tu vas te ceindre les reins, tu vas te lever, tu vas leur annoncer tout ce que je te commande, ne te laisse pas accabler par eux, sinon c'est moi qui t'accablerai devant eux. » On peut dire, garde ta ceinture bien accrochée à tes reins, quoi. Voilà, et pour ne pas trembler devant eux. On parlait de la disponibilité, hein, c'est le jeûne notamment, mais sans parler de gros jeûne, c'est simplement rester raisonnable dans les domaines de la nourriture et de la sexualité, de faire les choses dans un sens d'offrir au Seigneur. Dans ce que je mange, ben, je peux très bien dire, Seigneur, je t'offre cette bouchée, comme dans un dialogue amoureux, et chaque chose que je mange, comme je suis un membre de ton corps, je vais te faire sentir le goût que ça a, et je te loue pour le croquant de ce chou qui est cru, et pour le côté sucré de ce miel, et pour l'union dans un couple, le sens profond, et c'est Jean-Paul II qui l'a dit, de l'union de deux êtres, que ça soit sexuel d'ailleurs, ou une union de contemplation mutuelle, une union, parce qu'il y a plein de manières de s'unir, et ben c'est de pouvoir offrir le Seigneur qui vient visiter notre amour au monde. Voilà, c'est ça le sens profond de l'union de deux personnes. Comme si on était deux à remplir des jarres d'eau et que le Seigneur allait visiter ça pour en transformer l'amour qu'on a l'un pour l'autre en vin et inonder le monde et que tout le monde s'enivre du bon vin qui est venu de notre amour mutuel. Voilà, l'union de deux personnes. Il faudrait en reparler parce que c'est en fait ce qui est dit dans la théologie du corps, c'est très riche et la capacité de transformation du monde dans la relation homme-femme est beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, et surtout la compréhension en est réservée pour notre époque. Ça n'a jamais été expliqué avant Jean-Paul II. Voilà, donc c'est quelque chose de très beau. Alors la ceinture passée sur la tunique, elle peut être de lin, elle peut être de cuir, ou elle peut être très ouvragée, ou elle peut être réduite à une corde. Alors la ceinture, là c'est le mauvais exemple, elle pouvait devenir un ornement luxueux. Voilà, la ceinture c'était un peu les lunettes de soleil, les Ray-Ban, ou c'était la bagnole dans laquelle je me trimballe, ou c'est voilà, la ceinture à l'époque c'était ça, puisque les rois de Perse donnaient quelquefois des villes ou des provinces entières à leurs épouses pour la dépense de leur ceinture. Voilà, c'est dans l'Antiquité ça se faisait. Donc c'est pas nouveau en fait le commerce du luxe, parce que la ceinture à l'époque c'était le signe d'une table richement garnie, d'un harem fourni pour les rois, ou tout simplement de richesse, puisqu'on glissait dans ce morceau replié de cuir en fait, plié en deux, on glissait de la monnaie par exemple. Donc c'est pour ça que Jésus dit n'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, c'est-à-dire que tenez-vous en tenue de service. Le fait de se tenir en tenue de service, il faut pas que ça soit quelque chose qui nous aide à nous vanter parce qu'on a de l'argent, on a des choses à échanger contre d'autres, quoi. C'est vraiment, Seigneur, je me mets à ton service à toi sans que cette ceinture, j'en tire un autre avantage que d'être à ton service, quoi. Voilà. C'est ça, ne pas mettre de pièces dans sa ceinture ou ne pas mettre de ceinture luxueuse. Deuxième type de ceinture, c'est Jésus dans l'Apocalypse, hein, qui apparaît à Saint-Jean avec une ceinture d'or. Les anges aussi, ils ont une ceinture d'or. Donc ça va désigner, je dirais, la vertu poussée à son extrême, la vertu de chasteté, la vertu d'humilité. Voilà, le Seigneur et les grands saints, je pense, auront des ceintures d'or au ciel également. Ceux qui auront réussi à offrir de manière surnaturelle certaines... ils auront fait certains efforts particuliers. Troisième type de ceinture, c'est les prophètes et les personnes qui faisaient profession de pénitence ou de mépris du monde, qui portent des ceintures de peau ou de cuir simple, ou alors de cordes, même certains c'est un cilice, c'est-à-dire c'est une corde qui leur font mal, en signe d'humiliation. Voilà, c'est la notion de jeûne, de continence. Et toute humiliation qu'on s'inflige, par exemple, je ne vais pas prendre de sucre dans mon café, c'est comme une ceinture en fait. Voilà, symboliquement, le prophète, pour avoir sa ceinture, il y a des petites choses dans son repas, dans ses loisirs. En fait, dès qu'on s'offre un plaisir, le Seigneur dit à Gabriel Bossy, qui est une mystique du siècle dernier, lui dit en fait tout ce que tu fais, si tu veux vraiment qu'il y ait une fécondité pour toi et pour le monde, tu fais en sorte qu'il y ait le dernier élan soit pour le Seigneur. C'est-à-dire, je sais pas, je vais au ciné voir le film que j'attends depuis des mois, le truc que je peux offrir au Seigneur, c'est de pas m'acheter un énorme bac de pop-corn pour 5 personnes que je vais pas finir, quoi. Voilà. C'est le petit geste d'amour, alors que je me fais quand même une séance pour un film qui me plaît, mais voilà, je vais faire ce petit truc-là. Ça représente les herbes amères aussi qu'il faut manger avec l'agneau pascal. Ça représente le petit truc d'amertume qu'on va mettre et qui ne se voit pas et qui va permettre qu'on garde notre ceinture en fait, qu'on reste prêt et que si on doit croiser quelqu'un qui va avoir besoin qu'on s'occupe de lui, qui va nous parler de Dieu d'une manière un peu détournée, on soit prêt quoi, qu'on soit pas avec le ventre plein et en fait le Seigneur va visiter même au-delà du fait qu'on ait peut-être trop mangé, on a fait un bon repas parce que c'était à Noël, le petit effort que j'ai fait va racheter peut-être certains autres excès que j'ai faits, et le Seigneur va donner des grâces particulières qui vont bien au-delà. C'est pas le plus un, moins un, vous voyez, comme dans les questionnaires où si j'ai une mauvaise réponse, j'ai moins un, et si j'ai une bonne réponse, c'est plus un. C'est plutôt plus 20 et moins 1, vous voyez. C'est-à-dire que chaque truc qu'on mange en trop ou chaque parole qu'on dit de travers, c'est moins 1. Et le petit effort qu'on va faire, ça va faire plus 10, quoi. Ça va racheter beaucoup d'autres choses. Et c'est ça la ceinture, voilà. C'est pour ça que le Seigneur, il nous demande pas d'être forcément des forcenés du jeûne, hein, mais il nous demande juste de mettre une ceinture, voilà. Il nous dit pas mettez un cilice avec des pics. Voilà. Alors, quand on parle des reins, il y en a qui parlent de foyer impur. Ça, je trouvais que l'expression était intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer impur ? En fait, si on le regarde d'un point de vue scientifique, ça va être un certain nombre de molécules qui, quand on a absorbé certains aliments excitants, qui vont former dans nos reins une forme de mouvement de révolte contre Dieu. Voilà. J'ai trop mangé et donc je vais m'adonner à la critique. Ou j'ai trop bu et puis je vais être violent, ou je vais me mettre à râler, je vais me mettre à critiquer, ou je vais pas réussir à prendre la défense de quelqu'un qui est en train de se faire critiquer, etc. Donc le foyer impur, c'est ça, c'est au niveau physique, ça va être des molécules qui ont un mauvais effet sur notre corps et ça va rejaillir sur notre âme, sur notre esprit. Et au niveau spirituel, ça va être on se met dans un lieu de tentation et on va donner au mauvais esprit l'occasion, en étant rentré dans un lieu où on est en zone de faiblesse, en fait, de pouvoir sévir sur nous, quoi. Voilà, au niveau spirituel, voilà la traduction spirituelle de ce qui se passe au niveau physique. Et donc, ce qui cultive le foyer impur, c'est de manger trop gras, trop sucré, trop salé, trop alcoolisé et trop épicé. Oui, c'est comme dans la pub, en fait, sauf qu'ils en oublient.
J'oublie également le sang. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de ne pas manger saignant, et cet interdit a été repris dans le Nouveau Testament au Concile de Jérusalem, quand il y a cette question avec Pierre et Paul, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, et ils finissent par dire il ne faut pas manger sur le sang, c'est-à-dire, pour nous, ça va se traduire par faire cuire notre viande plutôt à cœur, puisque toute viande saignante attise également ce foyer impur.
Donc il y a une manière en fait qui est assez simple de faire attention à ça, c'est de dire je vais éviter de cumuler trop d'éléments qui vont entretenir ce foyer impur. C'est-à-dire si il y a un repas où j'ai mangé des choses grasses et sucrées et salées, je vais peut-être pas mettre en plus du piment et puis boire de l'alcool pendant ce repas-là. Vous voyez, je vais peut-être retirer un des trucs qui va éviter que ça fasse un cocktail et puis que du coup je cède à des tentations auxquelles je n'aurais pas cédé habituellement. Le foyer impur, c'est ça. Alors, par rapport aux prophètes, comment ils font eux? Ben, l'ange ne donne que du pain et de l'eau à Élie, hein, et il marche 40 jours et 40 nuits. Hein. Daniel et ses frères, quand ils vont à la cour du roi de Babylone, ils ne mangent que des légumes. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils ont le teint frais, qu'ils ont l'air bien, quoi. Alors que tous les autres, ils ont le menu du roi avec la viande en sauce, avec le pinard et le... Enfin, bon, je traduis, mais et les Kinder Surprise en dessert, quoi. L'intendant d'Akab, le roi impie, n'apporte que du pain et de l'eau aux prophètes qui se cachent dans les cavernes. Hein. Il les nourrit, c'est-à-dire qu'il y a Jézabel qui sévit, qui persécute les prophètes au temps d'Élie. Et lui, c'est du pain et de l'eau, en fait. Et donc, il devait savoir que les prophètes n'auraient pas accepté un morceau de viande rouge, parce que les prophètes, pour entretenir leur talent prophétique, ils vont surveiller un petit peu leur alimentation, sans forcément être au pain et à l'eau tout le temps. Mais ça, c'est, je dirais que c'est le prophète biblique qui est très dans l'excès. Ce qui entretient au niveau de l'alimentation l'instinct prophétique, le sens prophétique, c'est de faire un petit peu gaffe à son alimentation, quoi. Voilà. De garder sa ceinture. Alors, toujours par rapport à la ceinture, là j'ai parlé de l'alimentation, mais il y a quelque chose qui est un petit peu lié, c'est le fait que le prophète n'exerce pas de métier lucratif et ne s'occupe pas des ouvrages trop pénibles et trop incompatibles avec le repos que demande son emploi. Par exemple, Élisée, quand il est appelé, il quitte sa charrue. Et il brûle ça pour le Seigneur. C'est une manière de dire, je vais utiliser tous les talents que le Seigneur m'a donnés, et notamment ma force de travail, pour le Seigneur. Et je vais peut-être diminuer un peu mon rythme d'avant, de travail. Il faut que je travaille en étant juste, mais je vais peut-être pas faire des journées de travail où je travaille 15 heures dans la journée. Parce que pour être un prophète, il faut être disponible. Et quand on est trop occupé par les occupations temporelles, on ne peut plus être prophète en même temps. Zacharie, lui, il est laboureur, et c'est vrai que laboureur, on peut imaginer, c'est un métier où on fait un sillon, un autre sillon, et on a le temps de réfléchir, quoi. Il est pas trader à surveiller les trucs et à complètement arriver sur sa souris, quoi. Amos, lui, il dit, je suis pasteur, pasteur, on a le temps de contempler ses moutons, d'attendre qu'elles viennent, voilà. Et il pique les figues pour les faire mûrir. c'est pas violent comme métier. Voilà, je trouvais que c'était des métiers de contemplation. Ce qui entretient la capacité prophétique, c'est aussi de dire, Seigneur, là tu m'appelles dans un boulot où j'ai des temps morts dans mon boulot, où finalement je vais peut-être pas être à 200% toute la journée, c'est peut-être une grâce que tu me fais pour entretenir le talent prophétique que tu veux me donner. Voilà, c'est ça. Alors par rapport à la continence, toujours, donc je suis sur la ceinture, donc je parlais de la force liée à la ceinture, liée à l'alimentation, liée au travail, parce que les reins, ça représente la force, le travail. Et là, par rapport à l'engendrement et le plaisir sexuel, la continence absolue n'est pas exigée forcément pour le prophète, puisqu'on voit que Samuel a des enfants, que Isaïe est marié, et que Osée est sommé de se marier avec une prostituée. Au tout début du livre d'Osée, boum, allez, tu vas épouser Gomer, la prostituée qui est là, parce qu'en fait, tu vas être un signe, et voilà. Et donc, on voit que c'est pas... il faut pas être janséniste, en fait. Si on dit pas de sexe, par exemple, ou pas d'altérité homme-femme, pas de contact avec le sexe opposé, on interprète la Bible de travers. C'est pas ça qui est dit. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui est appelé dans sa condition propre à vivre d'une manière raisonnable, d'une manière aimante. Voilà, c'est ça le prophète. Donc ça dépend de à quoi on est appelé. Par contre, il n'y a pas de femmes dans les communautés de prophètes. Par contre, il y a des prophétesses. Hein, on le verra tout à l'heure. Donc les femmes ne sont pas exclues des prophètes, mais il y a une séparation volontaire entre les communautés de prophètes hommes et les communautés de prophètes femmes. Et donc moi, j'ai passé du temps à réfléchir dessus parce que je me suis dit, pourquoi il y a cette séparation? C'est quand même quelque chose. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est que la luxure des yeux est un poison pour un prophète. C'est-à-dire que, pour un homme, en tout cas, le fait qu'une femme cultive une certaine sensualité mal placée, en étant un peu trop dans la séduction, au lieu d'être sensuelle pour son mari et d'être sensuelle pour son seigneur parce qu'elle est bonne avec les autres, par exemple, eh bien, ça va étourdir l'homme et diminuer sa capacité prophétique et lui obscurcir le regard. Et c'est ça que ça veut dire. On a aussi l'hôtesse d'Élysée. Au moment où il y a une femme qui vient le voir, et c'est son serviteur Géasi qui fait le lien entre Élysée et cette femme, en fait. Élysée ne lui parle pas directement. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort. On se dit, mais c'est bizarre. Alors certains vont dire, c'était d'autres mœurs, et puis ils s'arrêtent là. Alors qu'en fait, il y a un sens spirituel derrière. Hein. C'est d'abord que vous faites du vélo, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider à ne pas regarder, si vous êtes un homme, à ne pas regarder les femmes dévêtues sur les arrêts de bus, quoi. Voilà, ça peut être ça, parce que du coup, on va éviter de souiller notre regard. Et voilà.